10 questions que je vous soumets et que je médite avec vous ou devant vous. La première question, est-ce que la cause de la vie dans notre pays est consensuelle? Est-ce qu'elle est consensuelle? Moi, je fais les questions et les réponses, hein, c'est un peu facile, mais j'ai envie de dire d'un certain côté, oui. Et j'aime bien ce qui a été dit sur les signes positifs des temps tout de suite, là, qui a été rappelé d'un autre intervenant, Michel Cantu, je crois. Quand on regarde la réalité du combat de notre société pour la vie, on peut se réjouir de beaucoup de choses. D'abord parce qu'on a la vie sauve. Et beaucoup d'entre nous, si la médecine n'avait pas progressé comme elle a progressé, n'auraient pas la vie sauve. Ou auraient beaucoup de leurs amis qui seraient partis plus tôt. Les femmes meurent moins en couche, etc., etc. Et ça, c'est parce que la société considère que la vie est une valeur forte. Lorsque un nourrisson est trouvé dans une poubelle ou au pied d'une église ou dans une forêt, comme c'est arrivé au Chesnay près de chez moi il y a quelques temps, c'est dans les journaux. On en parle. Voilà un petit être humain vivant qui a été laissé par une maman sans doute très souffrante. On en parle, ça fait presque, pas tout à fait la une, mais pas loin de la une des journaux. Donc la vie est une valeur forte dans notre société. Et ces signes de vie, Jean-Paul II en parle dans l'Évangile de la vie, comme autant de signes annonciateurs de ce qui est déjà advenu par la résurrection. Là, je parle avec des chrétiens et en chrétiens, c'est-à-dire la victoire de la vie par la résurrection. Mais il y a déjà des signes annonciateurs. Il les liste et ils sont assez nombreux. Je vais vous les lister rapidement. Les époux chrétiens, les époux qui savent prendre la responsabilité d'accueillir des enfants comme des dons, pas seulement les époux chrétiens. La famille, le service, la charité au sein des familles. Et en tant qu'acteur aussi auprès de gens en difficulté, je suis parfois stupéfait de voir l'énergie d'amour dont les familles sont capables, qu'elles sont capables de vivre. Vous avez entendu cette histoire d'une famille qui s'est noyée récemment dans la Garonne. C'était il y a 2 ou 3 jours. Je ne sais pas si vous savez les faits divers. Voilà. Enfin, un papa qui est dans un canoë et puis le canoë se retourne. Petite fille de 3 ans, petit garçon de 6 ans. La maman saute à l'eau et elle se noie avec tout le reste de la famille. Parce que simplement, on donne sa vie pour ses enfants en France aujourd'hui. Et on donne. Les parents sont capables de donner leur vie pour leurs enfants très spontanément, très souvent. La médecine. Qui aussi sauve des vies, je l'ai dit. Jean-Paul II parle des mouvements qui ont été créés, des initiatives, il y en a énormément. On a évoqué la Fidesco ici. Les gestes quotidiens de sacrifice, désintéressés. Il suffit de regarder autour de soi avec un regard contemplatif et on voit des beaux gestes d'amour, pas seulement dans le monde chrétien. La parabole du bon samaritain se rejoue régulièrement. Et puis Jean-Paul II évoque encore 4 autres choses. L'aversion de plus en plus grande pour le recours à la guerre, au fond le pacifisme. Je ne dis pas qu'il faille réhabiliter tel ou tel pacifisme d'antan, mais enfin, il évoque le pacifisme. Il évoque aussi cette aversion toujours plus répandue vis-à-vis de la peine de mort en société. Il évoque aussi, ça surprendra peut-être certains, l'attention grandissante à la qualité de la vie et à l'écologie. Il y a eu de nombreux textes finalement sur l'environnement des papes. Non pas sur l'environnement, une écologie fondamentaliste qui fait de la nature, de l'homme l'ennemi de la nature, qui préfère l'animal à l'homme, pas celle-là, mais une écologie profonde qui intègre aussi l'écologie humaine. Et puis aussi l'intérêt pour la bioéthique. Et vous avez suivi peut-être, comme nous, d'une certaine façon, les états généraux de la bioéthique dans notre société. On voit que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens notamment, se sont intéressés à ces sujets. Si on regarde la France, je vous donne encore 3 petits exemples qui me touchent. Enfin, 2 exemples. Quand j'ai commencé à l'Alliance pour les droits de la vie, on allait légaliser le cannabis en France. On considérait que c'était une drogue récréative, une drogue douce. Aujourd'hui, la lutte contre la violence routière a intégré le dépistage du cannabis comme une des causes des accidents de la circulation, en plus de l'alcool et d'autres choses encore. Nous avons levé le pied, non pas seulement du cannabis, mais nous conduisons moins vite. On a gagné en vie, plutôt épargné. Et désormais, on sait reconnaître les ravages d'un certain nombre de substances qui portent atteinte à la vie. Et il y a donc une mobilisation générale de la société sur ces sujets dont on peut se réjouir plutôt que de dire que tout fout le camp. Je dis ça parce qu'en tant que père de famille, je fais attention à ce que je dis à mes enfants du fait de mon engagement professionnel à l'Alliance pour les droits de la vie. Quelle image nous avons de la société? Est-ce que tout s'effondre? Est-ce qu'on est en train de perdre notre âme? Ou est-ce que le panorama, comme le dit Jean-Paul II, est contrasté, fait d'ombre et de lumière? Et une dernière lumière, le statut de l'enfant. Il y a quelques centaines d'années à peine, des dizaines de milliers d'enfants erraient dans les grandes villes d'Europe, soumis à la prostitution, à l'agression, à la mort, etc., étaient abandonnés. Aujourd'hui, on fait attention à ce que les enfants ne soient pas maltraités. On va jusqu'à enlever certains enfants à la garde de leurs propres parents afin qu'ils ne soient pas maltraités. Et Saint-Vincent de Paul a inauguré tout un mouvement de respect de l'enfant, de respect de sa dignité. Et vous allez me dire, parce que je vous vois venir, évidemment, je vous imagine tout ce qu'on écoute et qu'on voit, toute cette évolution. Il y a au fond un double mouvement, de flux et de reflux. Il y a d'un certain côté, un dessus tsunami qui nous envahit, ce que Jean-Paul II a appelé courageusement, et c'est vrai, de culture de mort, mais de l'autre côté, l'avancée de la culture de vie. Donc elle est consensuelle, mais, certes, notre pays vit dans une grande guerre contre la vie. Et ça, c'est... Je suis obligé de vous le dire et de se le rappeler entre nous. Et quand on calcule le nombre d'embryons conçus en France chaque année, pour qu'il y ait 820 000 naissances, conçus délibérément et détruits surtout, détruits, eh bien, il faudrait en compter plusieurs millions chaque année. Pour 800 000 naissances, il y a un médecin, Benoît Bell, qui a écrit récemment un livre où il a accumulé toutes les statistiques, les 220 000 avortements annuellement. Près de 40% des Françaises connaîtront au moins une fois l'avortement dans leur vie féconde. Près de 40%. Si vous voulez, vous irez voir sur le stand de l'Alliance pour le droit de la vie. Si vous voulez, il y a des statistiques qu'on vous donne. Je ne vais pas pouvoir le détailler. La fécondation in vitro, qui donne naissance, certes, à 14 700 enfants par an en France, cette fécondation hors du corps de la femme, par le biais d'une action d'une tierce personne dans un laboratoire, c'est lié aussi à la souffrance des couples infertiles, cette fécondation in vitro, pour faire naître 14 700 enfants, en conçoit 278 000 annuellement. Donc une donnée chiffrée importante aussi à connaître. Et aussi, il faudrait honnêtement regarder, même si ça fait parfois un peu mal, toutes les conceptions qui sont liées à des méthodes qu'on dit contragestives, comme le stérilet, des pilules du surlendemain, etc., où les parents, la femme ne saura pas s'il y a eu conception ou pas, mais ces méthodes ont bel et bien empêché la vie commençante de s'implanter. Et donc il y a cette réalité très souffrante au début de la vie où nous avons comme perdu des repères. Et tout ça, je le fais peut-être un peu tardivement. J'accompagne des femmes qui ont vécu l'avortement, des couples en difficulté avec l'annonce du handicap, avec l'infertilité, je l'ai dit. Et j'ai un regard de grand respect pour ces personnes. Je juge beaucoup comme un grand pharisien, malheureusement. Mais sur ces sujets-là, j'ai la grâce de pouvoir ne pas ressentir de jugement intérieur, mais souvent beaucoup de peine. Et donc, je sais bien qu'il y a une différence entre le respect des personnes et la réalité des actes. Heureusement pour moi, d'ailleurs, parce que si mes actes étaient à la haute et disaient tout de ma personne, eh bien, je n'oserais pas paraître devant vous. Voilà. Mais donc, c'est avec une certaine gravité que j'aborde ces sujets entre nous, parce qu'on est tous touchés à un moment ou à un autre, et vous, dans votre propre chair peut-être, et dans vos familles, au demeurant, il faut regarder ça en face. Donc la cause de la vie est consensuelle, et au demeurant, notre société vit dans une grande guerre contre la vie. La France a le record du monde de l'eugénisme anténatal, c'est-à-dire le dépistage anténatal du handicap suivi de la suppression de l'être humain porteur de ce handicap. Et record du monde. Pourquoi ? Et parce qu'il y a un très bon système de santé, une sécurité sociale efficace, les examens sont remboursés, ils ne sont pas obligatoires, mais il est obligé de les proposer. Et vous le savez, celles d'entre vous qui ont eu des enfants il n'y a pas longtemps, eh bien, vous savez que de plus en plus, on vous propose des examens. C'est pratiquement comme si vous les imposez parce que vous êtes fragile dans le temps du début de l'annonce d'une grossesse. Et beaucoup de couples, y compris des chrétiens, sont entraînés dans des cycles comme ça de vérification de celui qui n'est pas encore né. Deuxième question, pourquoi en est-on arrivé là ? Moi, je vous ai fait un panorama cette fois, vous l'avez vu, un peu catastrophiste. Pourquoi on en est arrivé là ? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Est-ce que l'homme aurait, perdu sa conscience ? Est-ce qu'on serait dans un système, une culture d'effondrement ? Au fond, c'est assez logique. Le cœur de l'homme n'a sans doute pas tellement changé, mais il y a eu trois grandes mutations. Il y a une mutation technique d'abord. C'est devenu possible. Serge Gainsbourg, n'a pas été avorté. Sa mère voulait le faire, mais elle n'a pas pu le faire parce qu'elle a eu peur pour sa santé. C'était l'époque des faiseuses d'anges. Il a eu la vie sauve, et sûrement des souffrances d'ailleurs liées à ce désir maternel dans la souffrance de cette femme qui est pauvre et démunie. Et aujourd'hui, dans les mêmes circonstances, les femmes ont des moyens techniques sécures, entre guillemets, pour leur santé, ou pratiquement dans nos pays occidentaux, pour avorter. Et donc, des techniques nouvelles sont arrivées. La fécondation in vitro, qui était impossible, est devenue possible. Et finalement, un certain nombre de techniques ont été utilisées. Eh bien, elles le sont pour le meilleur, mais elles l'ont été pour le pire. Évolution technique. Ensuite, la loi l'a reconnue et autorisée. Voilà, la loi des hommes a validé des atteintes à la vie. Et nous sommes très sensibles à la loi, surtout si on est bien élevé. On change notre comportement quand la loi propose, quoi qu'on en dise, la loi a un énorme impact sur les personnes. Elle a une autorité morale, entre guillemets, la loi. Et donc les personnes se conforment à la loi. Et j'ai entendu ça souvent. Mais madame que j'écoute et qui pleure, Ils n'ont pas compris. Qui pleure comme ça au téléphone. Et le médecin psychiatre qui l'accompagnait lui dit, madame, vous avez avorté. Mais ce n'est ni bien ni mal, c'est légal. C'est pas ça qui vous fait souffrir. Il n'a pas compris. Voilà. La loi a un énorme impact. Et la loi est parfois, la loi qui autorise l'atteinte à la vie, est parfois comme un joug impossible à porter pour les pauvres gens que nous sommes. Et troisième grande mutation, la culture, finalement, a accompagné ce développement. Au point qu'il y a eu cette inversion du bien et du mal, qui est le propre du scandale, hein, scandalium. On appelle bien un mal, on appelle mal un bien. Est-ce que ça aurait été égoïste de le garder ? On m'a confié une femme une fois. Est-ce que ça aurait été égoïste de le garder ? C'est-à-dire que, notamment en cas d'annonce du handicap, souvent les familles se sentent coupables de laisser naître l'enfant porteur d'un handicap. Et d'ailleurs, elles ne sont pas seules à le penser, puisque je pense au sénateur Henri Caillavé, par exemple, qui en tant que membre du comité consultatif national d'éthique, avait écrit « Lorsque des parents savent que l'enfant qu'ils vont mettre au monde est handicapé, ce serait faire preuve d'un égoïsme parental démesuré que de le laisser naître. » Ou un homme qui m'a confié, il a un frère prêtre, ils attendaient un enfant handicapé, sa femme et lui, je les ai eu au téléphone pendant longtemps, en tant que chrétien, il m'a confié que son grand-père lui avait dit « Lorsqu'une femme n'est pas capable de mettre au monde un enfant en bonne santé, elle n'a pas le droit de le mettre au monde. » Vous voyez, un grand-père. Le grand-père, c'est pouvoir de valeur. Et j'ai dit, mais ton grand-père, il est très gentil, il est bon, oui, sûrement, j'en doute pas. Mais là, il se plante, ton grand-père, il a tort. Mais c'est difficile là, d'aller contre l'avis d'un grand-père. La culture, vous voyez, c'est inversée sur ces sujets bien souvent. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? J'ai évoqué la technique, la loi, la culture. Il y a une réalité qui m'intéresse beaucoup. Je regarde souvent dans mon fort intérieur mes dysfonctionnements. Quand je mens, quand je regarde ça, c'est intéressant de voir comment on fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on on a du mal ? Pourquoi ai-je du mal à respecter, dans certaines circonstances, la vie ? Bien, je pense qu'il y a une chose à méditer, c'est notre souffrance. Lorsque nous souffrons, souffrons d'une grande frustration, souffrons d'un grand désir, d'une grande peine, eh bien, cette souffrance a tendance, si nous n'y prenons pas garde, à anesthésier notre conscience. J'ai la capacité de nier l'évidence en présence de l'évidence. Je ne veux pas le croire, c'est pas vrai. Et donc, des personnes qui sont confrontées à des abîmes de souffrance, que sont la question de l'infertilité pour un couple, certains en ont témoigné, la question de l'annonce d'un handicap, une grossesse qui n'était pas désirée ou qui est spécialement malvenue, eh bien, face à ces situations-là, les yeux souvent se ferment et on ne voit plus la réalité. On ne peut plus la voir parce que nous sommes fragiles. Donc la vulnérabilité de notre conscience est grande sur ces sujets. Et on a après la tendance à s'auto-justifier. Voilà, je vais peut-être pas me confesser aujourd'hui, mais j'ai quand même repéré de temps en temps dans mon fonctionnement le petit garçon en moi qui a envie d'être connu et qui dit une phrase, et quand je regarde de près, en fait, elle n'est pas tout à fait juste. Je l'ai un peu arrangée à mon profit parce que j'ai besoin d'être connu, applaudi, félicité. Et quand bien, du coup, ça me rend plus miséricordieuse quand je vois des personnes qui ont des situations si graves et qui effectivement ne sont pas capables d'accéder au sanctuaire inviolable de leur conscience, parce que il y a tellement de peur, tellement d'angoisse, tellement de drame autour de ça. Mais voilà, c'est la fragilité humaine. Et si vous proposez une solution qui semble sauver par rapport à la souffrance que vous vivez, solution qui était impossible autrefois, des procréer à tout prix, donner des enfants à des personnes, par exemple, de même sexe qui ont envie de procréer mais qui n'ont pas la capacité physiologique. Si vous leur donnez cette possibilité, les gens vont là parce que ça va donner l'impression de soulager leur souffrance. Voilà, ça nous invite, déjà quelques éléments que je propose au terme de ces deux premières questions. Avoir un regard contemplatif sur la vie pour à la fois s'en émerveiller et regarder attentivement les souffrances, les difficultés. Selon ce que Benoît XVI nous propose dans Dieu est amour, c'est le programme du bon samaritain, avoir un cœur qui voit. Chacun d'entre nous, nous sommes dans des situations telles que nous voyons des misères et des souffrances à nos portes, en nous, chez notre conjoint, dans notre famille. Et essayer d'avoir un regard vraiment contemplatif et aussi actif sur ces misères-là. Puis on est appelé ici ou là aussi. On est appelé là. Il n'y a que Dieu qui voit tout. Heureusement, moi, je ne vois pas tout. Celui qui a été témoin, par exemple, de la faim dans le monde, qui a vu mourir de faim des personnes, je pense au cardinal Philippe Barbarin, qui en a parfois témoigné, bien, il est sensible jusqu'à la fin de sa vie à la misère de la malnutrition, qui pour moi est une idée simplement. Donc regardez ce que notre cœur voit, voilà, et peut-être aussi regarder en profondeur le rapport que j'ai à la souffrance. Est-ce que je crois que souffrance et bonheur sont compatibles ? ou est-ce qu'avec le monde, j'ai l'impression que c'est en éradiquant la souffrance qu'on peut simplement conquérir le bonheur? Bon, ça, il y a de quoi méditer. Je passe à la troisième question. Troisième question. Est-ce qu'on peut défendre la vie sans Dieu? Je vous laisse répondre dans votre fort intérieur. Est-ce qu'on peut défendre la vie sans Dieu? Ben oui et non. Si je suis Jean-Paul II. Oui, si on suit Jean-Paul II dans... Enfin, c'est jamais vraiment oui d'ailleurs. Ceux qui sont choqués ont raison. Jean-Paul II évoque le fait que la raison suffit avec le secours secret de la grâce. Et là, il fait référence à ce que vous connaissez bien, je pense, la loi naturelle. A-t-il fallu attendre le décalogue donné deux fois à Moïse pour que l'homme ait l'interdit du meurtre comme en héritage, comme commandement chéri du bonheur qui nous permet d'être entre nous sans craindre que l'un ou l'autre, par énervement subi, se mette à tuer l'un ou l'autre, moi le premier par exemple? Eh bien, le commandement chéri du bonheur, il est donné déjà aux sages-femmes des Hébreux qui sauvent Moïse du génocide parce qu'au fond de leur cœur, elles ont cette loi naturelle. Autrement dit, croyez-vous que les chrétiens aient en possession un commandement qui est l'interdit du meurtre, à charge pour eux de le transmettre, de l'imposer à leurs contemporains? Réponse, non. Toutes les personnes humaines ont au fond de leur cœur, en héritage, parce qu'ils sont nés à l'image de Dieu, ils ont ce commandement de l'interdit du meurtre. Et c'est très, très, très consolateur pour des personnes comme nous qui sommes appelées à annoncer le respect de la vie, c'est savoir que cette lumière-là est au fond du cœur des hommes et il s'agit de la réveiller, de la libérer plutôt que de la s'aimer. La raison seule suffit avec le secours secret de la grâce. Même un incroyant qui n'a aucune conscience de l'existence de Dieu, Dieu lui a quand même donné ça au fond du cœur, cette conscience qui fait de lui un homme et non pas un animal. Tout homme sincèrement ouvert à la vérité et au bien peut, avec la lumière de la raison et sans oublier le travail secret de la grâce, arriver à reconnaître dans la loi naturelle inscrite dans les cœurs la valeur sacrée de la vie humaine depuis son commencement jusqu'à son terme. C'est le point numéro 2, un morceau du point numéro 2 de l'évangile de la vie. S'il y a au terme de cette rencontre, vous avez envie de rencontrer dans ce texte vraiment la profondeur de la pensée de Jean-Paul II sur ces sujets, ça serait fantastique parce que c'est une grande aide. De ce fait, les arguments de l'Église pour défendre la vie ne sont pas des arguments spirituels, ce sont des arguments scientifiques. Et depuis 16 ans que je suis délégué général de l'Alliance pour défendre la vie, je ne cesse de m'émerveiller de voir la pertinence intellectuelle de l'Église pour défendre la vie. Si elle défend l'embryon, c'est pas contrairement à ce que certains disent parce qu'il y a un dogme selon lequel la vie commence à la conception. Non, c'est la science qui ne cesse de révéler l'humanité de l'embryon. La science ne cesse de révéler, et les scientifiques le savent, j'ai assisté à un congrès sur l'embryon préimplantatoire où ça a éclaté de plus en plus, qu'à partir du moment où les gamètes se rencontrent, est inauguré un processus qui fait de moi simplement un embryon retraité, sans qu'on soit capable de donner un moment, un coup près, qui dirait que cet embryon devient moi, ou devient digne d'être respecté. Nous ne valons pas plus que les embryons, notre vie a autant de poids que celle d'un embryon, c'est la science qui le dit. Alors vous allez me dire, mais les scientifiques ne se sentent pas tous d'accord pour le dire. Oui, c'est vrai, parce que Aristote, je perçois les choses de la façon dont je suis disposé. Moi, je suis permanent salarié de l'Alliance pour la vie. Donc, je n'ai pas le droit de vous dire quelque chose. D'une certaine manière, c'est mon métier. Je dois parler du respect de la vie. C'est facile pour moi. Et j'ai travaillé avec des personnes pour préparer des conférences, des congrès, des colloques. Et certaines sont passées dans des postes à haute responsabilité, conseillers du Premier ministre. Et j'ai rencontré cet ami dans le cadre de son travail de conseiller santé du Premier ministre. Et il m'a dit, tu sais, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et j'ai été triste, mais j'ai compris que de là où il était, percevant les choses de la façon dont il était disposé, c'était très difficile de garder son boulot et de défendre vraiment la vie. C'est vrai, c'est difficile. Et bien des fois, je me suis surpris à édulcorer mon message parce que j'avais peur de l'impact fait. Donc c'est difficile pour un étudiant en médecine de refuser le bizutage qui le conduirait peut-être, dans certains cas, parce qu'il y a des processus un peu de familiarisation avec ce qu'on devra faire. Difficile de refuser de faire des avortements dans des stages. Je vous dis ça parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de sages-femmes, de médecins qui ont été amenés à faire des gestes que leur conscience réprouvait, mais dans le cadre d'un processus initiatique, il aurait fallu qu'ils disent non. Il est très difficile de dire non, de se heurter à tout le groupe. Et là, c'est là que vous voyez que Dieu aide, non pas tant parce que la démonstration serait une démonstration dogmatique, mais il aide parce que, et Benoît XVI l'explique dans Dieu est amour, parce que notre foi peut nous donner du courage et de la vertu pour aller jusqu'au bout du respect de la vie. C'est là qu'elle nous aide. Bon, si vous voulez vraiment aller dans une dynamique peut-être de contemplation spirituelle sur le tout commencement de la vie humaine, on peut aller faire un petit détour par la Visitation, avec la Sainte Vierge qui se lève et qui va en hâte dès l'Annonciation voir sa cousine. Et donc, elle porte un embryon préimplantatoire lorsque un fœtus de 6 mois donne des coups de pied à sa maman pour lui annoncer, lui faire comprendre dans le tressaillement qu'elle a, qu'en face à elle, eh bien, sa cousine porte le Messie. Donc effectivement, Jésus, embryon préimplantatoire, vrai Dieu et vrai homme, s'annonce à Jean-Baptiste, fœtus, qu'il annonce à sa mère, et d'où le Magnificat qui jaillit dans la bouche de la Sainte Vierge. Et à cette tribune, j'ai entendu un médecin dire un jour qu'il avait mieux compris le Magnificat en réfléchissant, enfin c'est moi qui paraphrase un tout petit peu, parce qu'en fait cette visitation c'est comme un test de grossesse. Hein? Donc le fruit de ton sein est béni. C'est un test de grossesse. Voilà qu'elle est vraiment enceinte. Elle ne le sait pas forcément. Elle sait que l'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Donc on peut voir là pourquoi ce grand cri de joie. Moi, ça m'a beaucoup éclairé dans ma prière. Et quand vous restez, je vous salue Marie. Vous pouvez dire que vous êtes déjà. Vous parlez d'un embryon préimplantatoire. Voilà. C'est pas une démonstration. C'est juste une petite méditation. Et Benoît XVI, avec des mots un peu plus calibrés, en a parlé à Rome dans un congrès sur ces sujets. Là, Dieu peut nous aider aussi. Et alors, j'ai dit oui sans Dieu et non d'un autre côté, parce que dans le texte de Jean-Paul II, l'Évangile de la vie, on comprend bien, et il le dit explicitement, que l'éclipse du sens de Dieu a provoqué l'éclipse du sens de l'homme. Et j'ai conscience d'être devant un paradoxe. La raison seule suffit avec le secours secret de la grâce, mais d'un autre côté, un monde sans Dieu est un monde où l'homme devient un loup pour l'homme. Ça, c'est vrai aussi. C'est vrai que l'athéisme militant, un matérialisme athée, est une cause profonde de la culture de mort et du fait que les hommes finissent par s'entretuer sans reconnaître le caractère sacré de la vie humaine que pourtant ils ont au fond de leur conscience. J'ai conscience de vous livrer là, au fond, un paradoxe. À l'inverse, ceux qui essaient de démontrer que la vie n'est pas respectable dès le commencement ont souvent des propos obscurantistes. Même s'ils sont des hommes et des femmes sympathiques et de qualité, leur démonstration peut être récusée. J'entends par exemple un des médecins, entre guillemets, procréateurs, qui disait à la télévision, c'était très convaincant, je vous fais sa démonstration, l'embryon, chose ou personne ? Et c'est impossible de le dire. Vous comprenez, c'est impossible. L'embryon qu'on conçoit dans nos tubes de laboratoire, si les parents n'en veulent pas, s'il n'est investi d'aucun projet parental, ce n'est rien, c'est une chose, il est détruit. À l'inverse, s'il est investi d'un projet parental, c'est une personne. C'est pour ça, vous comprenez, qu'il ne peut pas y avoir de statut d'embryon. Et là, on va se battre pour qu'il vive. Vous voyez, c'est philosophique. Fin de citation. Voilà ce qu'il disait. Et vous, vous dites peut-être, je ne sais pas, peut-être, bah oui, c'est assez séduisant finalement. Ou vous dites peut-être, et attendez, depuis quand est-ce que ça serait le désir et le projet parental qui conférerait à un élément biologique le caractère de devenir un être humain? Mais c'est pas de l'obscurantisme, ça. C'est pourtant ce que le professeur, moi j'étais à la télévision face au professeur Nizan, Israël Nizan, qui a fait un rapport sur l'avortement, qui d'ailleurs a ouvert un certain nombre de débats qui méritaient d'être ouverts, et il me dit à moi dans le débat, il dit, je vais vous expliquer. Vous prenez deux chats, hein, ça fait un chat. Voilà. Deux chiens, ça fait un chien. Un être humain, c'est différent. C'est différent. Parce que pour l'être humain, pour que le processus qui est engagé devienne être humain, il faut que la femme dise au processus biologique qui est en elle, je veux faire de toi mon enfant, et alors ça sera son enfant. Sinon, ce n'est rien. Il dit ça. Vous pouvez trouver sur Internet l'extrait de passage. Alors moi, évidemment, j'ai beau jeu de le m'offusquer, de dire, mais attendez, mais alors ceux d'entre nous qui n'ont pas été désirés, vous leur dites quoi? De quitter la pièce? Qui sait si on a été vraiment désirés, accueillis? Ceux qui ont été rejetés, ceux qui ont pu être confiés à d'autres, mais qui peut-être ont été rejetés aussi. Ceux-là, ils méritent d'être parmi nous, ils ont toute la place. J'ai l'impression que je suis sur du velours, que c'est une démonstration par A plus B. Hein, je pense que ça se démontre. Hein. Mais ce n'est pas parce que ça se démontre par A plus B que ça convainc. La question c'est, est-ce que le cœur est ouvert à ça? Est-ce que je suis, moi personnellement, capable d'entendre des vérités qui me dérangent? Quand ça remet en cause des modes de vie, un fonctionnement, etc. Si vous me dites que je ne suis pas assez généreux avec les pauvres, ce qui est vrai, est-ce que je suis prêt à être généreux pour autant ou est-ce que ça va me déranger et je vais tourner mes talons? Ce matin, j'ai été quêter la gare de Lyon à 3 reprises, un monsieur qui avait un regard très très convaincant, et j'ai dit non, je ne voulais pas te déranger, puis je suis allé prendre mon café, il voulait un café, puis je l'ai écarté, et puis là je me suis repenti, et puis il avait disparu, et je me suis dit ben voilà. Voilà, j'ai pensé au bon samaritain, etc. Mais j'étais le prêtre là, qui passe son chemin parce que j'allais à Paray-le-Monial vous parler de ces sujets. Et ce n'est pas si simple d'accueillir ce qui nous dérange au quotidien dans l'ouverture de cœur qu'on n'est pas forcément capable de donner. Donc vous avez compris, oui, et je vous citerai encore un autre professeur de médecine qui, dans sa lettre à une femme, c'est le titre de son livre, c'est le professeur René Friedman, Il dit, en substance, je paraphrase à peine ce qu'il dit, prendre un microscope, voir une petite cellule, déceler dans la cellule le handicap de celui qui peut-être ne verra pas le jour, pouvoir effacer cette image, c'est aller au-devant de ses amours, etc., etc., etc. Il dit, c'est comme dire, lève-toi et marche. Mais je me laisse aller à parler de moi, de mon orgueil et de ce qui ne vous concerne pas. Fin de citation. Donc, effacer l'image au microscope, c'est-à-dire détruire l'embryon porteur d'une anomalie, dit-il, c'est comme dire, lève-toi et marche. C'est juste pour partager avec vous, là, en chrétien, l'aptitude à tordre la parole que peuvent avoir des scientifiques par ailleurs de qualité. J'ai une amie qui a accouché d'un enfant de 5 kilos entre les mains du professeur Friedman, qui dit que c'est un excellent gynéco, très sympathique. Au demeurant, quand il va au bout de l'aveu, il fait un aveu d'orgueil prométhéen. Et ça, c'est dans le thème de la initiale de notre rencontre, c'est-à-dire une dérive prométhéenne qui fait de l'homme, fasciné par sa sagesse, son intelligence, sa toute-puissance, le maître de l'homme, capable de discerner s'il faut ou pas qu'un être humain vive ou ne vive pas. Ou capable de demander aux parents, c'est aussi un joug que je trouve très douloureux à porter pour eux, cet enfant que vous attendez, vous le voulez ou vous ne le voulez pas ? Il est désiré ou il n'est pas désiré ? Vous le gardez ou vous ne le gardez pas ? Mais question impossible. Depuis quand un être humain devrait-il être maître de la vie ou de la mort d'autrui ? Mais c'est pourtant ce que les parents ressentent souvent. Et les parents se sentent naturellement, par la réalité de notre vie psychique, responsables de ce qui advient à ceux qui sont sous leur responsabilité. Quand un enfant a un accident, les parents se sentent responsables, même s'ils ne le sont pas, en rien. Quand une femme a une fausse couche, souvent elle se sent responsable, elle s'interroge, etc. Et bien, quand une femme est enceinte et qu'on commence à lui poser cette question, la première question qu'on lui pose, vous le gardez ou vous ne le gardez pas, c'est d'une immense violence cette question. C'est une question impossible. C'est une question qui appartient de cette manière à Dieu, mais pas à l'homme qui n'est pas Dieu. Et d'où notre réalité avec au buisson ardent avec Moïse, notre capacité d'entendre Dieu nous dire « J'ai vu la misère de mon peuple. Et j'ai vu la misère de mon peuple en France, auquel on pose systématiquement des questions qui l'écrasent au lieu de poser des paroles et des gestes qui libèrent et qui accueillent. » D'où la nécessité évidemment de défendre la vie avec Dieu, hein, vous l'avez compris. Malgré le fait que j'ai été précis, j'espère, sur le fait que l'argumentation est avant tout scientifique et philosophique. Quatrième question, la démocratie est-elle une garantie de liberté, de vérité sur ces sujets ? Je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à ça, mais dans les générations qui sont plus jeunes que moi, je remarque parfois une difficulté à oser remettre la démocratie face à ses responsabilités. Alors Jean-Paul II en parle comme étant un signe des temps positifs. La démocratie est un signe des temps positifs. Mais, dit-il, poursuit-il, dans l'Évangile de la vie, en précisant vraiment, si la démocratie, en édictant la loi civile, ne respecte pas la loi naturelle, ça devient un mythe. Elle se confond avec ses propres... elle perd sa fin. Autrement dit, créons une démocratie, on ferme toutes les portes, on va voter l'élimination de l'un d'entre nous démocratiquement, à la plus que la majorité, aux 3/4, à 90%, comme d'ailleurs les sociétés le font assez facilement avec les minorités qui les dérangent. Est-ce que l'exclusion de cette personne, la destruction d'une catégorie de personnes, démocratiquement décidée par l'ensemble, est valide ? Est-ce qu'une personne qui est dans la petite minorité des 20%, des 5% qui aurait pris sa défense, « Je suis innocent du sang de cette femme », dit c'est Daniel, je crois qu'il dit ça, « Je suis innocent du sang de cette femme ». Est-ce qu'on a le devoir de se lever et de dire non ? Ou est-ce qu'on a le devoir de dire « Amen, la loi démocratique est sacrée ». Bien évidemment, on a le devoir de se heurter, de s'opposer par différents biais et différentes voies. Je ne parle pas forcément de la violence, mais on a le droit de considérer comme nulle et non avenue toute disposition qui porte atteinte au respect des droits fondamentaux de la personne humaine, d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, l'Église est souvent jugée pour ne peut-être pas l'avoir assez fait. Enfin, on l'accuse souvent de ne pas l'avoir assez fait dans des périodes de notre histoire d'il y a 50, 100 ans, etc. Et aujourd'hui, on lui reproche d'être antidémocratique. On a beaucoup reproché à Jean-Paul II les passages de l'Évangile de la vie où il démontre très clairement que ce n'est pas parce qu'une majorité de personnes dans un pays vote une disposition qu'elle est humaine, acceptable et qu'il faille s'y plier. Parce qu'au fond, c'est venir au secours de la démocratie que de lui demander de respecter les lois fondamentales inscrites dans le cœur de la personne. Elle n'est pas au-dessus de ces lois, elle est subordonnée à ces lois. Si vous voulez aller plus loin, vous regarderez dans l'Évangile de la vie tout ce qui est dit à ce sujet. Et ce que Jean-Paul II conteste, c'est ce qu'il nomme le relativisme éthique. C'est le fait de ne plus croire qu'il y ait un bien objectif révélé à l'homme par son créateur, qu'il soit ou non croyant, cet homme, mais de croire qu'au fond, toutes les vérités se valent. Et ce relativisme éthique aboutit au totalitarisme. Donc je ne suis pas en train de vous attaquer la démocratie ou de le faire, mais plutôt de dire que sauvegardons la démocratie du totalitarisme qui fait que dans notre société, qui par ailleurs a bien progressé en démocratie participative, etc., eh bien, il y a aujourd'hui une tyrannie très forte qui pèse. Elle est capable d'exclure les plus faibles de ses membres sans leur demander leur avis. Elle le fait, effectivement. Et j'ai organisé avec l'Alliance pour la vie une tournée bioéthique où nous avons vu des personnes porteuses de myopathie, porteuses de spina bifida, des handicaps qui valent parfois jusqu'à 100% de suppression anténatale lorsqu'on le détecte. Et Claire en particulier qui a témoigné, elle a dit « mais je ne comprends pas, mon handicap a disparu pratiquement et pourtant il n'est pas guéri, il a disparu parce que la société a décidé que ma vie ne valait pas la peine d'être vécue, mais moi ça me choque », dit-elle, « un kiné avait cru en moi ». En clair, l'a aidé à marcher, elle a réussi à marcher, à s'en sortir. D'autres s'en sortent moins bien d'ailleurs. Enfin, il n'y a pas d'angélisme à voir par rapport à ces réalités. Mais notre société a décidé, plus ou moins collectivement, avec notre complicité plus ou moins grande, eh bien, que certaines personnes, il valait mieux qu'elles ne vivent pas plutôt qu'elles vivent. C'est, heureusement, l'arrêt Perruche a été invalidé, mais c'est une autre question. Et donc, ça nous conduit à la question sur la démocratie de l'objection de conscience. Est-ce que j'ai le droit de refuser de participer à un acte que ma conscience réprouve? Réponse de Jean-Paul II, non seulement tu as le droit, mais tu en as même le devoir. Et c'est pas simple. Et je suis souvent confronté à des personnes qui viennent dire « je suis infirmière scolaire, je suis médecin, je suis gynécologue, je suis sage-femme, on me demande de faire ça, ça, ça et ça, qu'est-ce que je fais ?» Et moi j'ai envie de dire « mais au secours, parce que j'ai peur qu'elle perde son travail, j'ai peur qu'elle soit martyrisée au plan non pas physique aujourd'hui en France encore, mais professionnellement. » Et évidemment, être chrétien aujourd'hui dans une société où la loi naturelle n'est plus la base d'un certain nombre de comportements et d'un certain nombre de lois, c'est une société où être chrétien incite à payer le prix de cette conviction. C'est-à-dire à savoir dire non parfois. Alors, je dirais avec Jésus, mon heure est-elle venue ? Mon heure est-elle venue de témoigner en parole, en abstention, d'une certaine manière? Xavier Mirabel, notre président, qui est médecin cancérologue, lorsqu'il parle d'objection de conscience, il dit « attention, c'est pas seulement dire non, pousser un grand cri, s'en aller, claquer la porte. C'est engager le dialogue, c'est ne pas se compromettre, certes, dans des actes qui suppriment la vie, mais c'est aussi pouvoir essayer de trouver d'autres solutions, proposer autre chose. » Je sais pas comment vous positionnez par rapport à ça, mais je me souviens d'une sage-femme qui était venue me voir, me dire « mais voilà, moi dans mon service, on fait des IMG, interruption dite médicale entre guillemets de grossesse, qu'est-ce que je fais ?» Elles me disent, les copines, les collègues de travail, elles me disent « c'est bien gentil, mais nous, tu nous laisses faire le sale boulot. Et si par hasard, il s'agissait, on est absent, juste passer une perf, mettre un analgésique, est-ce que tu pourrais pas en faire un petit peu, etc. etc. » Elles se sentaient coupables de ne pas aider, etc. Et moi, j'ai fait une transposition violente. Je lui ai proposé une parabole. Je lui ai dit « je te raconte une histoire. Les clochards, si on les supprimait, à quoi ils servent ? À quoi servent-ils ? Quel est leur avenir ? Est-ce qu'on croit en eux ? Est-ce que, voilà. Alors moi, je vais les supprimer tous. Est-ce que tu es d'accord pour venir m'aider ? Parce que je ne sais pas où je les mettrai ensuite, c'est compliqué, etc. Qu'est-ce que tu me dis si je te dis ça ? Tu me réponds, ne le fais pas. Ne le fais pas. Respecte leur vie. Elle est respectable, elle est digne. Eh bien, ça lui a fait un petit choc. Et je lui ai dit, là, l'enjeu, c'est plusieurs. Comment on peut faire pour éviter ce massacre ? Plutôt que de dire comment est-ce que je vais pouvoir faire pour que mes collègues ne me considèrent pas comme quelqu'un qui est sans cœur parce que je ne participe pas à ce travail difficile. Mais j'en conviens, suivant la position que vous avez, c'est pas simple. Et moi, j'ai pas du tout envie d'avoir quelqu'un qui vient me voir, qui me dit « voilà, je fais tel boulot, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Parce que je suis très gêné. J'ai qu'une envie, c'est de dire « continue », parce que j'ai pas envie de faire de peine et je ne sais pas. Aucune exception à l'interdit du meurtre délibéré n'est légitime. Aucune participation à aucun attentat à la vie humaine n'est légitime. C'est comme une évidence. Ou alors, ma vie ne vaut rien, la mienne. Pas plus que les autres, en tout cas. Cinquième question. Et la liberté, là-dedans. Je ne suis pas philosophe, alors vous serez peut-être un peu déçus et vous aurez besoin d'aller chercher chez les vrais et grands philosophes des choses. Mais Saint Augustin dit, la première liberté, c'est de ne pas commettre de crime. C'est pour ça que je suis gêné par toutes les expressions quand j'accompagne des personnes, la liberté de choisir si oui ou non je tue une personne, si je tue cet être humain, la liberté, c'est une liberté dénaturée. Et essentiellement, mais je l'ai un peu compris en relisant pour vous l'évangile de la vie dans le train ce matin, je dis comment est-ce que je vais leur parler de la liberté. Jean-Paul II insiste lourdement, profondément, sur le lien entre liberté et vérité objective. Le lien entre liberté et vérité objective. La vraie liberté est ancrée dans la vraie vérité. Par exemple, tuer un être humain sans la conscience de ce qu'on fait, que c'est un être humain, c'est pas ça une vraie liberté. Si les parents savaient en vérité leur capacité d'amour, la grâce d'État qu'ils pourraient recevoir d'accueillir un être humain qui peut-être les mettrait tout de même en difficulté. L'humanité profonde, le caractère profondément respectable de la vie vulnérable, déjà conçue mais pas encore née, s'ils savaient tout ça en vérité, il y en a très très peu qui s'orienteraient vers l'avortement. L'avortement est souvent une réalité aveuglée, une conscience aveuglée. Et donc c'est vrai que creuser la vérité aide à être libre. Dans l'introduction de l'évangile de la vie, il y a une petite phrase qui peut mettre du baume au cœur de ceux qui ont envie de défendre et d'annoncer la vie, qui l'ont déjà fait. Jean-Paul II nous dit que l'encyclique se veut une réaffirmation précise et ferme de la valeur de la vie humaine et de son inviolabilité, et un appel passionné adressé à tous et à chacun au nom de Dieu. L'appel est suivant: respecte, défend, aime et sert la vie, toute vie humaine. Et il poursuit, c'est sur ça que je voudrais insister, c'est seulement sur cette voie que tu trouveras la justice, le développement, la liberté véritable, la paix et le bonheur. Le bonheur. On est tous en quête de bonheur, nos contemporains sont en quête de bonheur. Souvent, ils cherchent en cherchant le bonheur d'une manière aveuglée, piégeante, ils portent atteinte à la vie. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le bonheur blessé » parce que j'ai remarqué que les personnes qui se tournent vers des atteintes à la vie, souvent c'est parce qu'ils sont en quête effrénée d'un bonheur ou pour échapper au malheur, ils se tournent vers des actes, mais en fait, ils n'ont pas conscience que le respect de la vie est une condition sine qua non du bonheur. Pas seulement du bonheur de celui qui aura la vie sauve, mais aussi du bonheur de celui qui accueillera la vie de l'autre. Donc, petit passage peut-être à méditer aussi. Dans cette question sur la liberté, je voudrais pointer une réalité sociologique ou psychologique dont on doit être conscient, c'est notre aptitude à nous soumettre à l'autorité, qui est assez frappante. On a fait, vous le savez, peut-être il y a quelques dizaines d'années, un sociologue a fait une étude, c'était une sorte d'expérience scientifique où des pseudo-scientifiques faisaient croire à des cobayes qu'ils ignoraient le fonctionnement du système, qu'ils avaient à administrer des impulsions électriques à quelqu'un qui en fait était un acteur. Vous me suivez? Je suis peut-être pas très clair. Donc le scientifique en blouse blanche me dit, vous êtes d'accord, vous avez signé pour l'expérience et vous allez mettre des impulsions électriques pour cette personne qui est d'accord et c'est pour tester quelque chose. On pose des questions et la personne se trompe. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'une immense majorité des cobayes étaient capables d'administrer, sous l'autorité de la blouse blanche, une dose mortelle électrique aux cobayes. Donc le cobaye, le vrai cobaye étant celui-là qui ne sait pas, qui croit que voilà. Récemment, ils ont refait ça avec la télévision et le pourcentage était encore plus important. Dans un pseudo-jeu télévisé, on s'est rendu compte. Et donc, d'ailleurs, c'était un jeu assez violent parce que les gens étaient en larmes ensuite en disant « Mais je ne savais pas, je n'imaginais pas que j'étais capable de tuer quelqu'un sous l'autorité d'une blouse blanche. » Et nous avons cette tendance à nous soumettre à l'autorité d'une blouse blanche, d'une technique, de la loi, du « qu'en dira-t-on », de la pensée unique, de notre caste. Quand on appartient à tel ou tel cas, c'est très très difficile de dire non, hein, d'être la voix qui, à un moment qui dit non à quelque chose. À l'issue des 5 premières questions, je vous emmène au début du chapitre 2 avec Jean-Paul II, le chapitre 2 de l'Évangile de la vie, où Jean-Paul II est ce pape écrasé, voûté, appuyé sur sa croix, comme vous l'avez vu pendant des années. Et répétant ensemble son message, en France, il est venu un tout dernier message à Lourdes où on parlait aux femmes sentinelles de l'invisible, en rappelant la nécessité de la défense de la vie dans notre pays. C'est un de ses derniers messages à Lourdes. Et là, au chapitre 2 de l'Évangile de la vie, le numéro 29, face aux menaces innombrables et graves qui pèsent sur la vie dans le monde d'aujourd'hui, on pourrait demeurer comme accablé par le sentiment d'une impuissance insurmontable. Le bien ne sera jamais assez fort pour vaincre le mal. Point d'exclamation. Et moi, je ne sais pas comment vous vivez ça, mais de temps en temps, quand vous voyez ce qui nous arrive dans l'actualité, si vous la suivez, si vous n'êtes pas trop dégoûté, si vous regardez tout ça, vous dites, mais c'est pas ça, et ça encore, et ça encore. Et en Grande-Bretagne, c'est des chimères homme-animal. Et la semaine dernière, deux députés français, Alain Claisse, Parti Socialiste, et Jean-Sébastien Vialat, UMP, ont proposé qu'en France, on légalise la création de chimères homme-animal avec des ovocytes de bovins et des noyaux humains pour rechercher, etc. Et tous les trois jours, il y a une nouvelle. Alors, surtout que mon métier me fait que je regarde ça d'assez près. C'est pas possible. Le bien ne sera jamais assez fort pour vaincre le mal. Et là, Jean-Paul II poursuit. C'est alors que le peuple de Dieu, et en lui tout croyant, est appelé à professer avec humilité et courage sa foi en Jésus-Christ, Christ, le Verbe de vie. Voilà. En expliquant que l'évangile de la vie, ce n'est pas seulement une réflexion, c'est un message. Et il dit aussi à un autre endroit, l'évangile de la vie et l'évangile sont un et indivisibles. Sixième question, l'Église est-elle crédible dans une société laïque comme la nôtre sur ces sujets? Réponse, non et oui. D'un certain côté, il faut avoir conscience qu'elle n'est pas si crédible que ça. Pourquoi? Parce que une immense majorité des Français considèrent, et même chez les chrétiens, que l'Église n'a pas à se mêler de ces sujets, que les sujets de société concernent les personnes dans leur intimité et que l'Église n'a pas à mettre son nez dans les lits conjugaux et dans la réalité des sujets politiques. Et la France est le pays au monde où l'Église est le plus, les autorités spirituelles, l'Église en partie catholique en particulier, sont le plus récusées sur ces sujets. Et ça, c'est important d'en avoir conscience pour justement faire attention. Si l'étendard chrétien est source de contresens sur ces sujets, le Dieu que nous croyons annoncer est en fait défiguré, peut-être par nous, ou peut-être par l'idée qu'ils s'en font. Le Dieu dans lequel ils ne croient pas n'est pas celui dans lequel nous croyons. C'est un Dieu justicier, justicier au sens qu'il n'a de hâte que de traquer le pécheur pour l'écrabouiller. C'est donc le contresens satanique qu'ils font à propos de Dieu. D'où la nécessité de bien ancrer notre message sur la vie sur des arguments ajustés à ce que leur cœur peuvent comprendre, à ce que leur culture a compris ou pas des enjeux spirituels. Et faire attention sur ces sujets, compte tenu spécialement de la culture française où l'étiquette catholique, parfois, est infamante, est un bon moyen de décrédibiliser. Comme d'ailleurs, un certain nombre de mauvais esprits dans l'Évangile dénoncent la réalité du Messie, le Fils de Dieu, font profession de foi et Jésus leur interdit. Parce que c'est pas forcément la vérité n'est pas forcément bonne à dire à tout moment à tout le monde. Et Jésus dit, mon heure n'est pas venue, il leur interdit de dire qui il est. Hein? Se révéler, on se révèle dans sa nudité, hein, à son conjoint, mais pas forcément à tout le monde. J'ai ouvert plein de pistes là, mais il y aurait de quoi discuter. Hein. En même temps, il y a le paradoxe que j'évoquais avec Jean-Baptiste et Hérode. C'est que la société est ambivalente sur ces sujets. Elle est paradoxale, elle est adolescente. Et certains d'entre vous, là, vous avez, en 25-35 ans, vous n'êtes pas forcément très nombreux à être parents d'adolescents. Donc là, j'ai une petite expérience avec mes ados. L'adolescent est pris avec des pincettes. On lui tient des discours ajustés et assez stratégiques pour l'aider à avancer dans la vie, sans l'écrabouiller, en lui laissant une petite marge d'autonomie, pas trop tout de même, mais enfin, ça se calcule. Hein, ça se calcule. La France est une société adolescente, et même suicidaire par certains aspects, quand on voit la difficulté qu'elle a à accueillir la vie, à l'aimer, et donc, petite prudence de la mère de discuter avec elle. Voilà. Hérode aimait la conversation de son ami Jean-Baptiste, il aimait bien cette conversation, il était fasciné, c'était intéressant, c'était fort, et au demeurant, à un moment donné, il a cédé à la passion de la chair, et puis à son orgueil, et au vin sans doute aussi, et puis il a fait couper la tête de son ami. Et c'est tout l'enjeu compliqué des relations entre le pouvoir et les hommes de Dieu qui sont envoyés voir les pharaons des temps modernes, dont Jean-Paul II parle dans l'Évangile de la vie. Avec ça, j'ai évoqué donc ces difficultés et en même temps cette ambivalence, cette attente, parce que effectivement, j'ai dans les contacts avec les politiques, souvent je vois que la parole de l'Église est attendue par des gens non-croyants. Hein. Je pense à quand le cardinal Philippe Barbarin a qualifié une disposition de la dernière loi de bioéthique, celle qui va être révisée pour une deuxième fois maintenant, donc en 2004, il y a eu autorisation d'expérimentation sur les embryons surnuméraires. Embryons conçus in vitro, congelés, parce qu'ils ne sont pas implantables pour le moment, les parents ont d'autres embryons implantés, on les congèle, qu'est-ce qu'on en fait? La loi a autorisé que si ces embryons ne font pas l'objet d'un projet parental, si on peut imaginer, très illusoire, trouver des médicaments avec eux, et s'il n'y a pas de recherche alternative, les parents peuvent le donner à la science pour des recherches, pour une sorte de vivisection humaine. Non pas que l'embryon souffre de quoi que ce soit, comme des animaux sur lesquels on ferait des expériences, mais enfin, ils sont bien vivants, et la recherche les détruit. Eh bien, ça a été autorisé. Le cardinal Philippe Barbarin a fait un communiqué où il a parlé de transgression sans précédent. une catégorie de Français, d'êtres humains conçus en France, est utilisable pour notre supposé bénéfice et leur destruction. Transgression sans précédent. Eh bien, beaucoup de responsables politiques ont été frappés par ça. Et lorsque les états généraux de la bioéthique se sont déroulés l'an dernier, on a vu l'Église, avec notamment l'archevêque de Rennes, Mgr Pierre Dornelas et d'autres encore, prendre une part importante au débat. Derrière ce qui avait été le débat sur le Téléthon il y a quelques années, vous vous souvenez, lorsque les 2 ou 3% des fonds du Téléthon qui étaient orientés vers la recherche sur embryons ont fait débat. Et à cette époque, Jean-Yves Naud, le journaliste emblématique du Monde en bioéthique, a commencé à dire la cohérence de l'Église sur ces sujets. Emmanuel Hirsch, qui est le directeur de l'espace public des hôpitaux de Paris, a dit « Le grand mérite de l'Église catholique est d'avoir libéré la parole ». Et régulièrement, j'observe des politiques qui disent « Loue le travail que l'Église fait dans ce sujet ». Avec un certain degré d'ambivalence, certains étant contents que nous tirions la corde de ce côté pour rééquilibrer les scientistes que j'évoquais tout à l'heure et qui la tirent dans l'autre. Mais tout de même, un vrai respect. Parce que l'Église, c'est simple comme Dieu, son argumentation est simple comme Dieu. Elle ne tire pas elle ne coupe pas les cheveux en quarte. Elle va dans une réalité de raison profonde qui est extrêmement convaincante et rassurante. Et qui au moins donne une base de discussion, peut-être malheureusement pour transgresser. D'ailleurs, Jean-Paul II, dans l'Évangile de la vie, pour ceux qui se désoleraient de voir qu'il n'y a que des chrétiens pour défendre la vie, ce qui n'est pas totalement vrai, mais dans la grande cohérence, c'est vrai qu'il y a souvent des chrétiens. Je travaille beaucoup avec des protestants évangéliques, mais... Eh bien, Jean-Paul II annonce la nouvelle culture de vie avec trois nouveaux. J'avais un oncle qui n'aimait pas beaucoup, qu'on parle toujours de nouveau. Alors il me dit pourquoi, mais je lui dis, mais comme il aimait bien le pape quand même, j'ai photocopié la page. Nouvelle culture de vie. Pourquoi nouvelle? Parce que capable de répondre à des défis inédits. C'est l'article 95 de l'Évangile de la vie que je paraphrase là. Les défis inédits. Le clonage, par exemple, on n'y pensait pas. Créer un être humain sans reproduction sexuée, ça paraissait aberrant. C'est possible. Donc il y a un défi inédit. Regardons en face ce défi. Défi inédit. Nouvelle parce qu'elle sera prise en compte par tous les chrétiens. La nouveauté de la culture de vie, prophétie de Jean-Paul II, c'est que nous la prendrons tous en compte, nous, tous les chrétiens, catholiques, protestants, tous. Et nouvelle, parce qu'ils seront capables de susciter un débat culturel, courageux et sérieux avec tous. Ces sujets, ces enjeux de bioéthique, de vie, d'avortement, d'euthanasie, débattre de manière courageuse et sérieuse fait avancer la vérité. L'émotion spontanée sur une situation qu'on nous a mal présentée tue la vérité. La réflexion profonde sur ce qui s'est vraiment passé en vérité aboutit, en creusant ensemble le puits de la vérité, à trouver des solutions, des situations. D'où la nécessité d'aller en profondeur sur ces sujets, de ne pas se laisser manipuler, d'aller vraiment loin, d'essayer de comprendre les situations. Et aussi, je dirais, d'essayer de regarder l'Église autrement que comme Saint-Pierre l'a regardé avant son reniement. C'est-à-dire le lieu d'une victoire terrestre qui allait tous nous relais de gloire. J'allais être ministre de la vie avec le directeur du cabinet. Et non, souvent on veut des victoires. J'ai un ami qui m'a dit, mais il faut redresser la tête là, il faut qu'on gagne, c'est pas possible, on va pas perdre. Mais c'est spécial, avec l'Évangile, c'est à qui perd-gagne qu'on joue. Et Saint-Pierre, quand il ne voulait pas de cette croix, de cette crucifixion et d'un Messie crucifié, Jésus lui a répondu vertement, « Passe derrière moi, Satan ». Et après, quand il est venu l'arrestation, il a tiré son glaive, il a coupé l'oreille du serviteur du grand prêtre et Jésus l'a réparé en disant périra par le glaive. J'ai oublié le début de la phrase. Et après, il a fallu à Saint-Pierre toute une démarche pour reconnaître, retrouver son Messie et aller jusqu'au martyr. C'est quand même pas une situation pour un film. C'est pas un happy end quand même, la fin de Saint-Pierre. Et c'est pourtant sur ce sang des martyrs que l'Église s'est fondée avec Saint-Paul et lui. Et donc c'est vrai, non, je vous dis ça parce que, peut-être pas vous, mais parfois on voit des personnes désespérées parce que l'Église se fait cracher dessus. Déjà, c'est comme si on leur crachait dessus sur eux. Alors, c'est pas le cas. C'est comme si on crache sur Jésus. Et qui crache sur Jésus? Moi, le premier. Et donc, voilà, il y a de quoi être triste, c'est vrai, mais il y a de quoi surtout se rendre compte que c'est nous qui sommes sauvés par la miséricorde et que les autres ne savent pas. Il faut leur pardonner, ils ne savent pas ce qu'ils font le plus souvent. Septième question. Faut-il croire ce que disent les journaux? C'est une chanson. Alors, chacun, vous êtes en train de dire tous dans votre tête, bien sûr, non. Mais je crois quand même qu'on se fait tous avoir, lourdement. Quand on lit, d'abord, il faudrait lire les journaux. Bon, pas seulement se limiter à la radio et à la télévision. Vous creusez sûrement sur Internet. Peut-être vous avez un site favori, fétiche. Vous dites, celui-là, au moins, j'ai confiance, il ne me trompe pas. Vous me faites confiance, par exemple. Mais en fait, non. Il faut creuser. Il faut toujours creuser. Et il ne faut pas seulement par oui-dire, de manière aveugle, suivre tel ou tel gourou, tel ou tel média. Moi, je suis abonné au Monde. Je lis. Je lis toute griffe dehors. Souvent, il y a des choses très belles qui sont justes, que j'apprends, etc. D'autres fois, je me fais avoir. Je crois ce qui est écrit. Et quand je connais la situation d'à peu près, je découvre que ce n'est pas vrai. Et d'autres fois, je suis éclairé. Et dans la presse que j'aime bien, amie, que je regarde peut-être avec moins de vigilance, je me fais souvent avoir. Et quand j'écris, je me rends compte que c'est facile de biaiser. J'ai écrit des choses et parfois des gens m'ont écrit, m'ont dit, mais c'est pas juste que vous avez écrit sur tel ou tel sujet, c'est pas comme ça que ça se passe. Et j'ai creusé un peu, j'ai dit, bah oui, effectivement, j'avais pas dit la vérité. Je m'étais trompé, j'avais simplifié les choses. Hein. Quand Vincent Humbert, donc quand Chantal Sébire est morte, le lendemain, on a publié avec Xavier Mirabel, mon président, puis un professeur de médecine, Olivier Jonquet, une tribune dans Le Figaro, une mort qui brouille l'image des soins palliatifs. Et je suis allé rencontrer ensuite quelqu'un très proche de cette femme pour comprendre ce qui s'était passé. Je suis allé en train rencontrer cette personne, j'ai parlé pendant plusieurs heures avec elle pour comprendre qu'est-ce qui s'était vraiment passé. Avait-elle une maladie définitive orpheline? Non. Est-ce qu'elle avait une maladie incurable? Non. Est-ce qu'elle était condamnée à souffrir? Non, etc. Elle avait refusé les soins palliatifs, elle refusait toute médication sauf du doliprane, elle refusait la morphine qui aurait pu peut-être atténuer, elle avait refusé une opération chirurgicale. Et toute son histoire expliquée, triste et douloureuse, avec des tas d'événements que je ne peux pas forcément relater, explique pourquoi elle en était arrivée là, dans une sorte de toute-puissance, désespérée face à la mort et jusqu'à un suicide. Et en creusant, on découvre que tout ce que... Alors qu'on avait refusé, nous, des plateaux de télévision, parce qu'être face à une femme qui effectivement était en fin de vie, enfin en tout cas, pas en fin de vie, mais qui était extrêmement douloureusement atteinte d'une tumeur très visible, qu'est-ce qu'on peut dire face à une telle souffrance? Je ne sais pas, moi, de haute, bien portant, faire de la dialectique avec Chantal Sébire. Et pourtant, elle est morte désespérée et mal aidée, et n'ayant pas trouvé les soutiens. Et des gens de soins palliatifs à Dijon ont dit toute leur désespérance de voir qu'elle avait refusé toutes les propositions qu'il lui avait faites. Quand Vincent Humbert est mort, ce jeune homme qui a été euthanasié successivement par sa mère, qui l'a raté, entre guillemets, et un médecin qu'il ne connaissait pas, mais qui lui a fait 2 piqûres létales. Eh bien, on s'est téléphoné, Xavier Mirabel et moi, on est amis, c'est mon président, hein, on s'est téléphoné, on s'est dit, oh, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Il a écrit une lettre, il a écrit un livre, il est tétraplégique, il est aveugle, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon. Moi, je suis allé ensuite rencontrer, à Berck-sur-Mer, rencontrer des gens qu'il avait connus. Et je suis devenu ami avec un de ses soignants. On a discuté pendant beaucoup d'heures. On a discuté en profondeur. Je lui ai dit, tiens, c'est bizarre. La presse a dit qu'il était tétraplégique. Il n'était pas tétraplégique. Il était doublement hémiplégique. C'est très différent. Les médecins le savent. Il avait un syndrome frontal lié au traumatisme crânien. Il n'était pas aveugle, d'ailleurs. Il avait un certain nombre de capacités visuelles. On pouvait lui mettre des lunettes, même si c'était extrêmement compliqué. Bien sûr, il avait d'immenses souffrances. Il avait ce qu'on appelle un syndrome de persévération, qui est bien connu comme la face immergée de l'iceberg des gens qui ont un traumatisme crânien. C'est-à-dire, en fait, les atteintes psychiques, non pas intellectuelles, mais psychiques, sont assez fortes. Et c'est très compliqué à gérer, parce qu'il y a des obstinations sur certains points, etc. etc. Et le livre qu'il a écrit, le soignant m'a dit, mais l'homme qui a écrit ce livre avec lui, on l'a vu une fois à l'hôpital, une fois. C'est pas lui qui a écrit son livre. Et il avait écrit derrière une tribune en disant, le livre dont on a bien voulu te lire une ligne. Enfin, voilà. Vous pouvez creuser sur internet, vous retrouverez tout ça, le témoignage de son kiné, etc. Mais on découvre, et moi j'étais assez écœuré, j'ai rencontré les gens de l'agence France Presse, je leur ai dit, mais je comprends pas, il y a des dépêches tous les jours sur Marie Humbert, cette femme très souffrante, dont j'avais pu analyser que psychiquement elle est dans une confusion avec son fils, au point, sans le père d'ailleurs qui était parti, et au point qu'ils s'identifiaient l'un à l'autre dans quelque chose d'un petit peu régressif, comme on trouve souvent d'ailleurs en sortie de coma, et puis normalement il y a une séparation qui se refait. Ça s'était pas fait. Voilà. Et son livre à Vincent, le pseudo-livre se termine, enfin, laissez-lui vivre le semblant de vie qui lui reste à vivre. Moi je connais des mamans endeuillées qui vivent, douloureusement certes, mais qui vivent leur vie. Ce n'est pas des semblants de vie qui restent à vivre. Vous voyez, en creusant un peu ça, en creusant intellectuellement, on s'aperçoit qu'on s'est fait manipuler. Et les gens de l'agence France Presse, auxquels je l'ai dit, m'ont dit « Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a trop d'émotions. On ne peut pas publier ce que vous dites. C'est trop... C'est comme ça. Trop d'émotions. » La puissance totalitaire de l'émotion nous a fait applaudir, presque, à la mort de Vincent Humbert, comme si l'autre solution, la solution de vie, était inexistante. J'ouvre peut-être des tas de boîtes de Pandore dans vos réflexions, mais si vous creusez, si vous rencontrez l'Alliance, voyez ce qu'on avait pu écrire, voyez les articles, vous allez faire votre enquête et découvrir que c'est pas si simple que tout ce qu'on en a dit. Voilà. Et quand on est gêné de l'exigence que l'Église nous propose, creusons cette exigence, par pitié. C'est-à-dire que c'est des gens qui jugent l'Église comme liberticide, castratrice, etc., mais qui n'ont pas lu ce qu'a écrit Jean-Paul II, par exemple, sur l'Évangile de la vie, ce qu'il a écrit aux femmes qui avaient avorté, article 99, qui est magnifique de miséricorde, qui n'ont pas creusé le pourquoi du comment, mais qui ont un jugement parce que la presse a rapporté une affaire brésilienne déformée, et qui, du coup, ont honte à leur Église, en utilisant les moyens du monde déformés pour en avoir honte, je trouve c'est triste. Je vous dis c'est triste, mais moi je me fais avoir aussi. Hein. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont fait ça? Je peux pas croire. Je donne 3-4 coups de fil, je vais faire un évêque, à un prêtre, on discute, on creuse, on se dispute entre nous. Et puis on découvre que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait pu croire. Et qu'on s'est tous fait manipuler. Faut pas croire ce que disent les journaux. Libérons-nous. Et de ce point de vue, moi j'aime bien, mais c'est aussi lié à bras ouverts, cette phrase de Jésus est vraie. Je vois des personnes converties, je vais la citer la phrase, des personnes converties depuis peu, qui n'ont pas fait beaucoup d'études et qui adhèrent au commandement de l'interdit du meurtre sans exception, comme par préscience, en profondeur, avec une intelligence des réalités très très forte. Et la simplicité des cœurs simples, notre simplicité de cœur simple, qui va un peu éradiquer le sage et l'intelligent qui étouffe tout ça dans la complexité des choses, va avoir accès à l'urgence du respect absolu de toute vie humaine comme une évidence. Mais ça, pour ça, il faut se simplifier. Huitième question, il y en a 10, hein, vous savez. Suis-je pour la vie? Est-ce que je suis pour la vie? Je dirais, est-ce que moi, tu dois le dire, je suis pro-vie? Mais en fait, je ne vais pas marquer sur mon front pro-vie, même à mes propres yeux, parce que je ne vais pas marquer chaste sur mon front non plus. Et c'est tellement beau d'être pour la vie que je ne peux pas l'incarner. Et j'ai éprouvé à différents moments de ma vie des expériences d'ambivalence qui m'ont rabattu le caquet sur ces sujets. Et autant je suis attaché, je veux être attaché, je défends la vie, je veux défendre toute la vie de toute personne, autant je m'en sens bien incapable, bien souvent. Et ça, c'est une réalité aussi, je crois, dont on peut avoir conscience. J'ai été parfois saisi de voir que dans tel ou tel de mes amis qui avaient pu aller militer, entre guillemets, manifester, agir, témoigner fortement pour la vie, en situation lui-même, en 2 secondes, avait perdu toutes ses convictions. Et voilà, la conscience de notre vulnérabilité sur ces sujets est sans doute essentielle. L'évangile de la vie, ce n'est pas une possession qu'on pourrait capter, c'est l'évangile tout court. Donc j'en ai soif à la mesure que je peux l'annoncer. J'ai soif de l'annoncer à la mesure dont j'en ai soif pour moi-même. Me laver les dents le matin devant la glace, je peux le faire en respectant la vie, et je le peux faire aussi avec un esprit de fatalité et de désespérance. La façon dont j'ai regardé le monsieur qui m'a quitté ce matin, je peux le faire d'une façon vivante, appelant la vie, je peux le faire de façon morbide et fatale. La façon dont je vis ma relation avec tel ou tel frère, sœur, belle-mère, gens, etc., je peux le faire de manière pleine de vitalité, en croyant que tout est possible, avec la bienveillance absolue que seul Dieu peut vraiment avoir, je peux le faire de manière désespérée, morte. Et c'est vrai très concrètement, je peux tuer, je peux avoir des silences qui tuent, des colères qui tuent peut-être, et peut-être des passages à l'acte. La conscience que je suis capable du pire est pour moi un point d'ancrage joyeux. Parce que je découvre que le message est tellement plus grand que moi. Et du coup, je suis un peu moins désespéré de voir qu'il a du mal à passer, parce que je vois que j'ai du mal moi-même à le recevoir. Jean-Paul II rappelle ce passage bien connu du Deutéronome. « Vois, je mets devant toi vie et bonheur, mort et malheur, la vie tu choisiras pour que toi et ta postérité vous viviez. » Il explique bien à quel point c'est une confrontation intérieure qu'il y a dans ces sujets. Voilà, ma conscience est souvent partagée entre vie et mort. Et il y a derrière ça un combat. Je dirais, il y a derrière ça un combat spirituel, dont certains ont peut-être l'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire avec une certaine pudeur? On peut dire que sans Jésus, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas être vainqueur. Quand il s'agit de vie et de mort, quand vous êtes confronté à un enjeu de vie et de mort dans votre couple, dans votre famille, etc., ce n'est pas avec des démonstrations par A plus B et une sorte de volontarisme talentueux que vous allez réussir à faire gagner la vie. C'est dans une intériorisation très 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 nécessaire du combat spirituel qui se joue, où les forces de vie et de mort s'affrontent, les forces spirituelles. Et donc à nous de choisir bien sûr le camp de la vie, qui est le camp du Seigneur, mais à le choisir avec beaucoup d'humilité, parce qu'on est des indignes témoins. Et je dirais qu'il y a 2 étapes intéressantes dans nos vies, peut-être pour s'ancrer davantage, pour que ça passe de la tête, peut-être au fond, l'expérience de l'émerveillement que Jésus a dans le passage que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce que une pauvreté en moi, chez mon conjoint, ils sont mariés, je crois, dans mon enfant, dans les personnes que Dieu m'appelle à voir, avec un cœur qui voit, les personnes sans domicile fixe, les personnes incarcérées, les personnes handicapées, est-ce qu'à un moment donné, j'ai accès à cet émerveillement de la faiblesse qui confond la force? Ça, c'est un atout magnifique pour défendre la vie, l'expérience de cet émerveillement. Et ensuite, aussi, L'expérience, moi, je l'appelle du chavirement. Est-ce qu'à certains moments, je n'y ai plus cru? Est-ce qu'à un certain moment, face à une fin de vie interminable, je me suis dit, c'est pas possible, pas possible. Il faudrait pouvoir mettre fin à cette vie, ce serait si simple. Parce que... Et cette expérience du chavirement que moi, j'ai pu éprouver à tel ou tel moment est aussi un point d'ancrage intéressant pour que le respect de la vie dépasse simplement une sensibilité joyeuse et magnifique aussi, quand même, à la beauté de l'existence, mais soit mis à l'épreuve d'une expérience personnelle, de rencontre avec ce qui m'émerveille dans la pauvreté, de rencontre avec ma difficulté à accueillir vraiment toute vie, toute, dans toutes les conditions. Ça, c'est vraiment difficile. Il faut en avoir conscience. Non, mais je pensais à Mère Teresa juste comme modèle intéressant sur ce sujet. Mère Teresa qui, au lieu de voir l'océan de misère, prend le goutte à goutte et, voyez, à la fois un témoignage de respect de la vie finissante, de la vie commençante par l'accueil dans ses orphelinats et de témoignage à l'ONU. Enfin, c'est une figure qui récapitule tout ça. Et voyez combien elle est appelée hein, à défendre la vie sans pouvoir non plus l'incarner. Avant-dernière question. L'interdit du meurtre est-il un obstacle à l'évangélisation ? Charles de Foucault, conseillait avec les Touaregs qu'il rencontrait dans sa période missionnaire, de ne pas leur parler directement de Dieu, mais de loi naturelle. Car leur parler directement de Dieu, disait-il, c'est entrer en conflit avec eux, en conflit violent, ils en ont une image déformée. Par contre, s'entendre sur la loi naturelle nous permet d'avancer et ensuite, dans l'amitié, d'annoncer davantage le Seigneur, je paraphrase. Et pour la vie, on pourrait dire que c'est presque la même chose. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, quand elle parle d'avortement, de bioéthique, etc., bon, dans un premier temps, elle fait mal dans la mesure où les gens croient qu'elle condamne le pécheur. Donc il y a un travail à faire, une réflexion à faire, en disant que oui, l'interdit du meurtre d'un certain côté peut nous donner l'impression de faire obstacle à l'Évangile. D'ailleurs, j'entends des gens, je lis des articles, des gens qui disent « Quand l'Église aura enfin cessé de refuser la contraception, l'avortement, pourquoi pas l'euthanasie, le mariage homosexuel, etc., ben, enfin, on pourra redresser la tête, se développer, et pense-t-il peut-être avoir des vocations. » Pourquoi non? Parce qu'en fait, la vie, c'est le Seigneur, et le Seigneur, c'est la vie. Quand vous regardez la liturgie, c'est comme vous avez découvert la louange ici, depuis très longtemps pour certains, depuis peu de temps. Quand on découvre la louange, je dis, c'est pas possible, toute ma vie, j'ai chanté des Alléluia, des Hosanna sans louer. Et pourtant, on loue. Voilà. Et bien sûr, la vie, c'est la même chose. Si vous regardez la liturgie de l'Église, toute la liturgie de l'Église, tout notre chemin, c'est passer de la mort à la vie. C'est ça l'Évangile. On est arraché à l'esclavage en Égypte, on est avec Moïse, sage-femme, on passe le fleuve, on a la vie sauve, on ratiocine au désert, et jusqu'au pied de la croix où la Sainte Vierge nous enfante dans les douleurs de l'enfantement, et on passe avec Jésus dans la résurrection. C'est tout notre chemin personnel, du néant vers la vie éternelle. Et donc, voilà, si on commence à prétendre annoncer Jésus sans annoncer la vie, c'est impossible. Alors Jean Vanier dit qu'il y a un chemin du pauvre vers Jésus, comme il y a un chemin de Jésus vers le pauvre. Mais celui qui va pouvoir contempler la vie en profondeur va rencontrer le Seigneur. Et celui qui rencontre Jésus et qui le contemple en profondeur va vers la vie et le respect de la vie. C'est comme logiquement équivalent. Peut-être pour faire passer la pilule, si vous me permettez l'expression. Non, elle n'est pas à la hauteur de l'idée que je veux vous donner. Parfois, ma langue fourche. Hein. Je voulais vous parler de la miséricorde. Le principe actif du respect de la vie, pour qu'il passe dans notre société où 40% des femmes vivent l'avortement, il faut le faire passer avec la miséricorde. Mais en le faisant, c'est pour ça que ce n'est pas seulement l'excipient d'un principe actif, c'est un autre principe actif, la miséricorde. Vérité et charité. L'un sans l'autre se dénature. Donc annoncer la gravité des transgressions qui sont faites sans la miséricorde qui vient tout renverser, limite absolue posée au mal, c'est risqué d'écraser les personnes, l'annoncer sans la miséricorde. Hein. D'où la nécessité d'être toujours, de lutter contre, je l'ai évoqué tout à l'heure en passant un peu trop vite, moi je dis c'est le contresens satanique. J'ai eu sur la miséricorde, des contresens sataniques autour de la miséricorde. Une personne qui nous téléphone et qui dit « je suis chrétienne et j'ai avorté, donc Dieu ne peut pas me pardonner ». Un Dieu qui ne peut pas pardonner, mais c'est tout l'inverse de la religion chrétienne. Et c'est ce que nous pensons souvent, nous les pécheurs. On dit, mais on s'éloigne de sa face, on fuit, l'œil était dans la tombe et regardait qu'un, c'est complètement pas évangélique ça, n'est-ce pas? C'est complètement, et c'est une espèce de sentiment de vouloir fuir le visage de Dieu, hein, n'ayez pas peur à ouvrir grandes vos portes au Christ, donc à nous mettre sous le regard de Dieu. Et pouvoir mettre nos avanies les plus profondes sous le regard de Dieu, eh bien la grâce va surabonder. Mais Jésus le fait très bien, enfin il le fait très bien évidemment, c'est la femme adultère, il ne la regarde pas avec pudeur, et elle va pouvoir être pardonnée, mais sans le regard qui aurait été impudique, la présence de Jésus s'est faite très discrète. La Samaritaine, c'est « tu dis vrai, car tu n'as eu 5 et aucun n'était ton mari. » Donc il va la prendre dans la vérité de ce qu'elle dit, pour qu'ensuite, toute joyeuse... Mais comment se fait-il qu'une femme soit toute joyeuse après avoir été quasiment insultée par Jésus, dans la culture de son temps? Moi, j'ai réfléchi à ça, j'ai supposé qu'il avait un ton et un regard qui disaient une infinie miséricorde. Donc moi, quand j'accompagne des femmes qui ont avorté, j'y vais en marchant sur des œufs, c'est le cas de le dire. J'essaie de me laisser envahir par un sentiment qui ne vient pas de moi, de miséricorde, pour être infiniment bienveillant intérieurement, admirer la beauté de l'âme de la personne qui est brisée, qui se confie, croire que rien n'est perdu. Jean-Paul II, Évangile de la vie, article 99, aux femmes qui ont avorté, rien n'est perdu. Elles me disent, tout est foutu, elles me disent, on ne peut pas revenir en arrière, elles disent... Ma vie est foutue, je ne mérite pas d'être mère, etc. Des autocondamnations, elles font des cauchemars, pas toutes, hein, mais voilà, d'une manière très personnelle à chaque fois. Jean-Paul II, rien n'est perdu. Voilà, consoler mon peuple, comment consoler? Dernière question, comment consoler? Je fais un tout petit retour en arrière sur un point. Paradoxalement, parce que c'est important pour nous chrétiens, oui, il est l'avortement, l'euthanasie, tout ce que Jean-Paul II appelle les crimes contre la vie, perpétrés au sein même des familles, avec l'aide de ceux qui devraient être les gardiens de la vie, c'est-à-dire les médecins, les soignants, avec la bénédiction de la loi qui devrait normalement protéger la veuve et l'orphelin et le plus faible. Tout ça sont des crimes abominables. C'est aussi un vocabulaire, je le partage avec vous. Paradoxalement, la conscience de la gravité de la faute, je dirais ma conscience de la gravité de ma faute, est la condition sine qua non de l'accueil plein et entier de la miséricorde. Donc la miséricorde, c'est pas de dire eh, ça c'est pas grave, ça ne s'est rien passé, c'est pas ça. C'est faire la vérité. Et pour la part qui m'incombe de responsabilité, qui parfois est forte et peut-être jusqu'à écrasante, c'est sur la conscience et la reconnaissance de la gravité que je peux apporter une parole de miséricorde. Et c'est compliqué, c'est difficile, je sais, pour les prêtres aussi, dans le sacrement de la réconciliation, quand il leur est confié des choses si lourdes et si fortes, parce qu'on n'a pas envie d'entendre des choses si lourdes et si fortes. Je suis une mère meurtrière. Une femme m'a dit, par exemple, en pleurant, elle m'a dit, vous comprenez, pour moi, me dit cette femme qui avait avorté, l'avortement c'est plus grave que la guerre, car dans la guerre on tue son ennemi, et dans l'avortement on tue son enfant. Et moi, j'ai juste dit, et j'en arrive à ma dernière question, comment consoler? Pour vous, l'avortement, c'est plus grave que la guerre. Je soigne mon ton. J'accepte qu'elle a le droit de penser que l'avortement, c'est plus grave que la guerre. Et en la rejoignant dans la conscience de la gravité, je permets à la consolation de venir sur la vérité. Parce que ce n'est pas avec des pansements sur les choses sur lesquelles la vérité n'est pas faite qu'on va aider la personne à s'épanouir et à revivre. Et revivre après l'avortement, se redévelopper après des graves péchés, etc., après des graves atteintes à la vie. Parfois, il y a une irresponsabilité très forte. La personne a pu être forcée, il y a eu des conditionnements. Elle aura peut-être donné sa vie pour un autre enfant, puis celui-là, elle n'en avait pas conscience vraiment à l'avorter. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que c'est forcément... Sa responsabilité est totale, bien sûr, et elle est partagée avec des hommes, avec des médecins, avec la loi, avec nous tous. Voilà. Mais enfin, cependant, comment consoler? Écoutez, Salomon, c'est un bon exemple pour la vie, Salomon. Demande un cœur qui écoute. Il a ce cœur qui écoute, il est donné par Dieu, par grâce. Voilà que deux prostituées se disputent un enfant vivant, étant mort. Que fait Salomon? Il les écoute. Et c'est dans le cri de la mère qu'il reconnaît que c'est elle la mère. Autrement dit, je veux euthanasier mon père. Tu veux euthanasier ton père? Oui, parce que ça ne peut plus durer, il souffre trop. Et en creusant, on va pouvoir poser sur les vraies raisons profondes de la phrase initiale, les paroles, les conseils, les orientations, la parole d'autorité peut-être, ne le fais pas peut-être, à un certain moment, mais qui vont s'ancrer non pas dans ma peur désespérée de vite trouver une solution, une aide, de refiler à la patate chaude, de dire mais non, surtout pas, de fuir. Non, je vais essayer de creuser dans la rencontre avec la personne jusqu'à poser la parole sur le lieu où il peut être soulagé si j'y arrive, et puis ça ne m'appartient pas. D'où la. Voilà, et après donc, c'est elle la mère, rendez-lui l'enfant, dit Salomon, qui par ailleurs a un pouvoir que nous n'avons pas forcément, et donc il peut rendre justice. Voilà. En conclusion, j'avais une petite typologie à vous proposer. J'essaie de vous la proposer de manière succincte, avec l'aide de la Providence. Comment nous situons-nous par rapport au commandement chéri du bonheur, ça c'est mon vocabulaire personnel, qui est l'interdit du meurtre? Nous pouvons nous comporter en pharisiens. Et ça, ce serait très bien. Parce que les pharisiens aiment la loi. Ils aiment creuser la loi. C'est-à-dire que vous allez, dès aujourd'hui, vous procurer l'évangile de la vie, le lire attentivement, le souligner, etc., apprendre, essayer de comprendre pourquoi. Voilà, ça c'est l'amour de la loi, c'est très bien. Par contre, les pharisiens ont un énorme problème qui annule tout, c'est qu'ils n'ont pas la charité. Et que ça les pousse même à devenir meurtriers du Seigneur. Vous pouvez faire comme les sadducéens, qui ont comme avantage de célébrer la vie. Vous rentrez en prière, vous louez le Seigneur, vous le louez pour la vie, vous priez pour les pauvres et les gens qui sont dans la misère, etc. Le petit problème des sadducéens, c'est qu'ils sont tellement obsédés par la liturgie, qu'ils se désintéressent des affaires du monde, qu'ils sont même prêts à soutenir les puissants qui sont finalement hostiles à la vie, et à devenir finalement dans leur aveuglement, obsédés finalement par tout spiritualiser, sans jamais incarner leur travail. Ça serait un risque. Ensuite, troisièmement, vous pouvez vous comporter en zélote. Les zélotes, c'est ceux qui sont des résistants. Ils ont une fougue, magnifique fougue, ils sont prêts à payer le prix, leur propre personne, à être martyrisés peut-être, pour une cause juste. L'inconvénient du zélote, c'est qu'il est dans la violence et la virulence. Et qu'il est prêt finalement à rajouter de la violence à la violence. Saint-Pierre, quand il coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre, se comporte en zélote finalement. Mais après, bien sûr, il se convertira. Vous pouvez vous comporter en hérodien, c'est-à-dire en personne qui s'implique dans les affaires du monde, du temps de Jésus, qui sont donc avec le, qui est avec le pouvoir, mais du coup il s'implique, il se présente aux élections, parce que c'est facile d'avoir des mains propres quand on n'a pas de mains, comme on dit. Donc il s'implique dans la société. Quand ils ont un travail, par exemple, eh bien ils ne vont pas forcément choisir un travail qui ne met en rien en cause la question de leur engagement spirituel. Ils vont essayer, au contraire, d'être là où peut-être cet engagement spirituel va pouvoir rayonner, quitte à ce que ça leur en coûte un petit peu, les Hérodiens. Mais le problème, c'est que les Hérodiens ne feront pas ça. Là, j'étais en train de parler des Hérodiens convertis. Parce que les Hérodiens, ils collaborent. Et ils sont dans la compromission. Et je voulais évoquer avec moi, je ne veux pas le catholique comme ça, mais je me rends bien compte qu'en situation de défendre la vie, parce que c'est ma vocation, certes, mais aussi mon métier aujourd'hui. Et enfin, dernière catégorie, on peut être essénien. Les Esséniens, c'est cette secte de Qumran qui avait une conscience aiguë, et ça c'est leur force, du combat spirituel. Avoir conscience du combat spirituel. Si vous baladez en France et que vous dites « la France vit en paix », il y a peut-être un petit aveuglement quand on voit le nombre de victimes qu'il y a. Donc les Esséniens, ils ont conscience de ça. Par contre, leur limite, c'est qu'eux, ils sont dans un ghetto de pur, et le ghetto de pur n'existant pas, c'est comme si moi je vous disais que je défends la vie. Oui, j'essaie de défendre la vie. Mais je collabore à la culture de mort par mon péché, et plus souvent que, et peut-être encore plus souvent du fait de mon engagement, et parce qu'on est attaqué sur le lieu de sa mission. Et donc, j'ai bien conscience qu'il y a un énorme travail à faire pour se ressentir concerné, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur par l'enjeu. Et donc, toutes ces catégories que j'ai présentées de manière rapide et un peu caricaturale, certes, sont transformées dans l'Anawim, le pauvre de Dieu, Moïse. Sans doute Jean-Baptiste à la fin de sa vie, peut-être pas au tout début, il était assez zélote, parce qu'il a dû demander à Jésus s'il était celui qui vient ou s'il fallait en attendre un autre. C'était pas ça qu'il attendait comme victoire, mais à la fin, le Seigneur l'informe bien de ce qui se passe. Les boîtes marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, etc. Donc, et puis la Sainte Vierge. Et j'essaierai de le faire aussi, je vous promets. Voilà, merci.